Bonjour à vous tous. Vous avez certainement vu dans le coin de neuf qu'il me revient aujourd'hui de vous apporter la prédication. C'est rien de nouveau. À vrai dire, j'ai un peu hésité. Après tout, je me dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a des jours où la fatigue se fait ressentir, mais Étienne m'a encouragé, convaincu qu'il fallait que je relève ce défi aujourd'hui. La dernière fois que je vous ai apporté la prédication à la fin du culte, pour être honnête, je me sentais vidé. Je n'avais pas envie de réfléchir à quoi que ce soit. Et ça m'a fait penser à nos dernières années au Burkina Faso. Les panneaux solaires étaient une belle découverte qui a changé notre vie. Fini les lampes à pétrole avec tous les inconvénients. Nous avons installé des panneaux sur le toit et ils chargeaient une grosse batterie de voiture ou de camion. Et ça nous permettait de profiter de l'électricité. Je sais, ici, on n'y pense même pas. Mais c'était vraiment le top. Et le seul problème, c'est que si nous avons trop travaillé avec l'imprimante, le soir, nous retrouvions tout à coup dans le noir. Car le système s'est mis en veille pour protéger la batterie. C'était comme si EDF avait coupé le courant. Et voilà, c'est comme je me suis senti ce jour-là après le culte. C'est comme si mon cerveau s'était mis en veille. Mais le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, tout s'est remis en marche, heureusement. Mais ce matin-là, savez-vous quelle était ma toute première pensée? C'était que le message sur 1 roi 13 que j'avais donné la veille n'était pas terminé. Alors c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de nous replonger dans cette histoire. Cette histoire du roi Jéroboam pour continuer l'aventure. Mais rassurez-vous, c'est la dernière fois que je vous parle de ce roi. Bien sûr, vous avez tout oublié de cette histoire, c'est normal. Ça fait quand même quelques mois. Ce jour-là, nous n'avons pas perdu de temps parce qu'il y avait beaucoup à méditer dans ce chapitre 1 roi 13. C'est comme un feuilleton, on va de surprise en surprise et au fur et à mesure qu'on avance dans ces textes, dans ce récit, on se retrouve avec des questions auxquelles nous n'avons toujours pas de réponse. Il faut l'avouer, parfois nous sommes très petits. Après le culte, une personne est venue me voir. Elle hésitait, mais elle se retrouvait avec ses pourquoi. Et bien sûr, elle cherchait des réponses. Et elle me disait, mais au fond, est-ce que nous avons même le droit de poser des questions? Et je dirais oui, et j'ajouterais que Dieu n'a pas peur de nos questions, si ce sont des questions qui sont sincères. C'est en posant toutes sortes de questions que les enfants grandissent. Ils sont pleins de pourquoi. Papa, maman, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut toujours avoir des réponses à donner. Et à vrai dire, les psaumes sont tout pleins de questions que le psalmiste a posées à Dieu. Et donc, dans ce chapitre 1 roi 13, j'avais choisi trois mots qui m'ont aidé à entrer dans ces textes. Ce jour-là, j'avais envie de planter trois clous dans le mur derrière moi pour afficher ces mots. Mais j'avais trop peur de la commission de bâtiment. surtout peut-être de Magali. Donc nous avons projeté ces mots avec le vidéoprojecteur. Et le premier mot, si vous vous souvenez, c'était le mot courage. Le courage. La Bible est pleine des actes courageux. Dans 1 Roi 13, il a fallu une bonne dose de courage à cet homme pour annoncer son message au roi Jéroboam. Il risquait sa vie. Et suite à la suite des événements, nous le démontre clairement. Ce n'était pas rien. Le dimanche passé, nous avons chanté ce merveilleux chant de J'aime aux puissances de la croix. Vous vous souvenez du dimanche passé? Montre-moi l'aurore de ce jour si noir. Christ en chemin vers le calvaire. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'était facile d'être en chemin vers le calvaire? Moi, je ne pense pas. Pour Jésus, il fallait beaucoup de courage. Nous venons de chanter, il est devenu homme comme nous. Et dans l'évangile de Luc, nous lisons que Jésus, tout en sachant que le temps était proche, où il devait être enlevé du monde, décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. En d'autres termes, il prend avec courage la route de Jérusalem, prêt à faire face aux conséquences de son choix. Nous aussi, il nous faut redoubler de courage dans notre marche, dans notre service pour Dieu. Surmonter nos craintes, nos doutes, nos faiblesses, pour avancer à chaque moment, main dans la main, avec celui qui nous a appelés. Le deuxième mot, c'était le mot « combat ». Cet homme de Dieu, il savait que son message allait être mal accueilli, car c'était une parole très sévère, un avertissement à ce roi. En effet, à peine a-t-il fini de parler que le roi lève la main et il crie « Arrêtez-le ! Ne laissez pas échapper, ne le laissez pas échapper. » Et qu'est-ce qui se passe? Le bras du roi se fige. Il n'arrive plus à baisser son bras. Et au même moment, la parole de l'homme de Dieu s'accomplit. L'autel se fend et la graisse du sacrifice se répand par terre. Tous ces détails, vous pouvez les relire pour rafraîchir votre mémoire. Pendant cette année 2020, il y aura probablement des moments où le combat sera rude. Surtout si vous êtes engagé dans la foi. Être dans le cortège triomphal du Christ ne veut pas dire que tout sera facile. Non, au contraire, se mettre du côté de Dieu, être un témoin vivant de sa grâce, ça implique forcément des combats. Ne soyons pas surpris. Suivre le Christ n'est pas un chemin facile. Chaque matin, nous avons besoin de puiser de nouvelles forces, de nous préparer pour ce combat, parce que tout seul, nous ne pouvons pas affronter l'ennemi. Le troisième mot, c'était le mot « cadre ». Cadre. Je ne savais pas si c'était le bon mot qu'il fallait employer pour la fin de ce chapitre, mais c'est le seul mot que j'ai trouvé et ça va très bien avec les autres. Dieu avait donné un cadre à cette mission qu'il a confiée à cet homme. Cet homme dont nous connaissons très peu de choses. Dieu a donné des ordres précis qu'il fallait respecter, ni manger, ni boire lors de ce déplacement à Bethel. Pourquoi? Est-ce que c'était pour priver cet homme d'un très bon moment? Car après tout, le roi Jéroboam allait certainement lui offrir un excellent repas, qui allait lui donner des forces pour le chemin de retour. Je crois sincèrement que Dieu a voulu protéger son serviteur. S'asseoir à table d'un roi qui avait rejeté ce que Dieu lui avait prescrit dans l'alliance avec son peuple, ça ne pouvait rien amener de bon. Donc l'homme, il refuse l'hospitalité, il refuse les cadeaux qui lui sont offerts par Jéroboam, et il prend le chemin de retour. Et la suite est inimaginable. Ce n'est peut-être pas toujours dans le feu de l'action que nous sommes le plus vulnérables, le plus exposés au danger. Cet homme qui a fidèlement accompli sa mission s'est fait piéger par un vieux prophète. Un vieux prophète qui le fait sortir complètement du cadre que Dieu lui avait fixé. À cause de lui, cet homme de Dieu a fait ce que Dieu lui avait clairement dit de ne pas faire. Dieu nous a donné à chacun un cadre qu'il faut respecter. C'est pour notre bonheur, il ne faut pas nous tromper, c'est pour notre bonheur, notre épanouissement. C'est dans ce cadre que nous trouvons la vraie liberté. Mais aujourd'hui, ce cadre est rejeté. Pas beaucoup. Ce n'est pas étonnant que le monde aille mal, que même la France se trouve avec beaucoup de problèmes. Thierry Huser écrit des articles intéressants dans le lien fraternel. Vous connaissez le lien fraternel? Est-ce que vous l'avez remarqué? En août-septembre, il a écrit un article sur les trottinettes qui envahissent nos villes. Vous vous souvenez de cet article? Mais il y a un an, Thierry a écrit un article « Ouvrir notre présent ». Je vais lire juste un tout petit peu de ce que Thierry a écrit. C'est un fait reconnu. Le présent s'impose de plus en plus comme la valeur centrale du temps. Pendant des siècles, on a cherché dans le passé des repères pour écrire l'avenir. Puis c'est l'avenir qui a été investi de toutes les espérances, le progrès dont on attendait tout. L'avenir est chargé désormais de plus d'incertitudes que d'espérances. Ici, Thierry souligne, n'est-ce pas, que beaucoup de personnes, c'est le moment présent qui compte. Et il continue, Thierry, certains chantent la liberté d'un présent sans attache, qui ne doit rien à personne et n'a aucune obligation de l'avenir. Mais ce présent, qu'il soit insouciant ou désabusé, ne peut éviter les rendez-vous d'avenir, telle la cigale de la fable lorsque l'hiver succède à l'été. Ce rejet de vraie valeur, de tout ce que Dieu a prescrit pour le bien de l'humanité, ça me fait peur, je pense que ça nous fait peur. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer notre aventure avec ce roi Jéroboam. Donc le chapitre 14, 1 Roi chapitre 14. À la même époque, Abia, fils de Jéroboam, tomba malade. Jéroboam ordonna à sa femme, « Viens, déguise-toi pour qu'on ne reconnaisse pas que tu es la reine, puis va à Silo. » C'est là qu'habite le prophète Ahia, celui qui a prédit que je deviendrai roi de ce peuple. Tu emporteras comme cadeau 10 pains, des gâteaux et un pot de miel. Tu iras le trouver et te feras savoir ce qui arrivera au garçon. » La femme de Jéroboam fit comme son mari le lui avait demandé. Elle se mit en route pour Silo et se rendit dans la maison d'Aïa. Aïa était si âgée que ses yeux s'étaient éteints, il ne voyait plus. Mais l'Éternel lui avait dit, « Voici que la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle entre chez toi, elle essaiera de se faire passer pour quelqu'un d'autre. » Dès que Aïa entendit le bruit de ses pas devant la porte, il s'écria, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi essaies-tu de te faire passer pour une autre? De toute manière, je suis chargé de te transmettre une parole sévère. » Faisons une petite pause. Ça fait du bien, des pauses, n'est-ce pas, dans la marche? Juste le temps de saisir ce qui se passe dans cette histoire. Nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé depuis tout ce que nous est raconté dans le chapitre 13. Mais Jéroboam, il était roi pendant 22 ans. Et ici, il est question d'un de ses fils, Abia. Je crois, Abia, oui. Non. Ahia, je crois. Écoute, je ne sais plus. Abia. Donc, c'est ce fils qui est tombé malade. Certainement, il était gravement malade. Et malgré les efforts de soigner la maladie, il n'y avait aucune amélioration. Et Jéroboam se souvient du prophète Ahia. Celui qui avait annoncé qu'il allait devenir roi. Ce prophète est toujours en vie, désormais un vieillard. Avec le passage du temps, il est devenu aveugle. Jéroboam n'ose pas aller en personne chez Ahia. Il a la conscience trop chargée. Il sait très bien qu'il a fait fausse route et qui s'est écarté de tout ce que Dieu lui avait dit par la bouche de son prophète. J'imagine une nuit quand il ne pouvait pas dormir, il n'arrivait pas à s'endormir, une idée vient à l'esprit. Une idée géniale. Pourquoi ne pas envoyer sa femme à sa place, hein? Et pour être absolument sûr de réussir son coup, Jéroboam lui dit de se déguiser. Personne ne doit savoir qu'elle est l'épouse du roi. À tous les coups, ça va marcher. Jéroboam espère malgré tout que Aïa donnera à cette femme déguisée une parole de réconfort qui va lui redonner espoir pour son fils qui lui est cher. Sa femme entre pleinement dans ce projet, elle se rend à Silo chez le prophète. C'est comme si Jéroboam avait un peu oublié à qui il avait affaire. Aïa n'est pas du tout à comparer avec ces personnes de la culture païenne qui font de la magie, qui pratiquent la divination. Si c'est là la pensée de Jéroboam, il se trompe complètement. Aïa n'a aucun pouvoir en lui-même pour sauver, guérir cet enfant. Aïa est totalement dépendant de Dieu et de son intervention. Le cadeau que la femme apporte n'est pas digne d'un roi. C'est un cadeau tout à fait ordinaire et ce n'est pas étonnant parce qu'elle va essayer de se faire passer pour quelqu'un d'un milieu modeste. Ce que Jéroboam ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà prévenu le prophète Ahia de ce qui allait arriver. Dieu met son serviteur au courant. Même si l'âge était devenu pesant et que ses yeux étaient éteints, le prophète savait tout. Et Dieu lui avait confié un message à transmettre à Jéroboam. Dès que ce prophète entend le bruit de ses pas, la femme de Jéroboam, qu'elle arrive devant la porte, Ahia écrit « Entre, femme de Jéroboam, entre, entre !» Elle est à la porte, elle n'est pas encore à la messe, mais « Entre, femme de Jéroboam !»« Pourquoi fais-tu semblant d'être quelqu'un d'autre ?»« Mais viens, entre chez moi. En effet, j'ai une parole pour toi, pour ton mari. » Mais ce n'est pas une bonne parole. Dans verset 7, on va continuer la lecture. Retourne dire à Jéroboam, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai mis en honneur au sein de ton peuple et je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume à la dynastie de David pour te le donner. Mais tu n'as pas imité mon serviteur David qui a obéi à mes commandements et qui m'a suivi de tout son cœur pour faire uniquement ce que je considère comme juste. Tu as agi encore plus mal que tous tes prédécesseurs. Tu es allé fabriquer d'autres dieux, des idoles de métal fondu. Tu m'as ainsi irrité et tu m'as tourné le dos. C'est pourquoi je vais faire venir le malheur sur ta famille. J'en exterminerai tous les hommes, qu'ils soient esclaves ou hommes libres. Je balayerai tous les descendants, comme on balaye les ordures, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Verset 12, on va continuer. Quant à toi, rentre chez toi. Dès que tu mettras le pied dans la ville, ton enfant mourra. Tout Israël prendra le deuil pour lui et l'enterrera. C'est le seul descendant de Jéroboam qui sera déposé dans une tombe parce qu'il est le seul membre de sa famille en qui l'Éternel, le Dieu d'Israël, a trouvé quelque chose de bon. Verset 17, la femme de Jéroboam se mit en route pour regagner Tirsa. Au moment où elle franchissait le seuil de sa maison, son garçon mourut. On l'enterra et tout Israël prit le deuil pour lui, comme l'Éternel l'avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Ahia. Verset 19, les autres faits et gestes de Jéroboam, ses guerres et les événements de son règne sont consignés dans le livre des annales des rois d'Israël. Après 22 ans de règne, il rejoignit ses ancêtres décédés et son fils Nadab lui succéda sur le trône. Voilà. Lors du décès de ce roi Jéroboam, on constate qu'il n'y a pas de commentaire parce qu'il n'y a plus rien à dire. Tout ce qu'il avait à dire, c'est déjà mentionné avant. Et la première chose aujourd'hui que je veux vous dire, ce texte me renvoie à l'homme, à la nature humaine, et surtout à ce qu'il est sans la grâce de Dieu. Il y a ce verset de Galates qui me vient à l'esprit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Nous savons fort bien que ce que nous semons dans nos jardins, que ce soit des tomates, des concombres, nous allons le récolter dans quelques mois, si tout va bien. Quand on sème des potirons, est-ce que ce sont des bananes que nous allons récolter? Non. C'est une loi de la nature. Nous récoltons ce que nous semons. Ne nous y trompons pas. Ce que nous semons dans nos vies, nous le récolterons un jour. Et la récolte sera conforme à la semence. Il n'est pas possible aujourd'hui de retourner en arrière et de retracer le parcours de ce roi comme nous l'avons fait la dernière fois. Tout cela est raconté en détail en chapitre 11. L'auteur met en relief l'infidélité de Salomon et la manière dont il s'est détourné de l'Éternel pour s'attacher aux dieux étrangers, aux idoles. Dieu dit clairement à Salomon qu'après son décès, il arracherait la royauté et le donnerait à l'un de ses sujets. Et voilà, toutes les tribus, à l'exception de Juda, passent sous le contrôle de Jéroboam, ce jeune homme qui était énergique et capable au service de Salomon. Et par la bouche du prophète Ahïa, Dieu fait de belles promesses à Jéroboam. Quant à toi, je te ferai roi. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que j'ai prescrits, et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, je ferai de toi chef d'une dynastie durable comme je l'ai fait pour David, et je te confierai Israël. Quel avenir prometteur pour ce jeune homme ? Franchement, il a absolument tout pour réussir. Et c'est pourquoi la royauté est arrachée à la maison de Salomon. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il fait un virage à 180 degrés. Il prend une direction tout à fait opposée à celle que Dieu lui avait indiquée. Wow. Parfois, nous pensons que ce sont les autres dont il faut se méfier. Nous oublions que le plus grand danger peut venir de nous-mêmes. Mon plus grand ennemi, c'est peut-être pas mon voisin, mais tout simplement moi. On entend parfois ce conseil qui revient tel un refrain. Suis ton cœur, écoute ton cœur, et tout ira bien. Ton cœur est libre, trouve le courage de le suivre. Mais mon cœur, est-il vraiment libre? Est-il vraiment fiable? Jérémie nous dit... Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Impossible de le guérir. Et qui peut le comprendre? Nous sommes tous faits de la même pâte. Nous sommes tous terriblement fragiles. Oui, si nous voulons l'admettre, nous sommes tous comme ce roi Jéroboam. Et Paul nous dit en Corinthiens que celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Nous avons été faits à l'image de Dieu lui-même, capables de faire de belles choses, de très belles choses, comme ce bâtiment. Mais en même temps, nous avons ouvert la porte au mal. L'homme n'est pas seulement capable de belles choses, mais il est aussi capable du pire, de commettre des atrocités, des crimes indescriptibles, comme nous le démontre l'histoire. Dieu parle à Jéroboam. Il avertit par des paroles sévères. Il lui tend la main, mais en vain. Nous ne constatons aucun changement d'attitude, aucun changement de comportement. Jéroboam a fortement marqué l'histoire des rois du royaume du Nord, mais pas de manière positive. Il y a un refrain qui revient sans cesse concernant les rois qui le suivaient. Toujours c'est dit, il a fait ce que l'Éternel considérait comme mal en imitant l'exemple de Jéroboam. Tous les rois, sans exception. C'est comme si Jéroboam a ouvert la porte. Il a calé la porte ouverte pour que le mal entre. La sanction va tomber. Un jugement si terrible que nous n'osons presque pas le lire. Dieu est-il injuste? Je remercie le pasteur Mathieu parce qu'en culte l'année passée, il a touché cette question. Dieu est-il injuste? Mais si nous voulons l'admettre, tout ce qui arrive ici est conforme aux sanctions, aux malédictions prévues par l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous pouvez le lire, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome. Nous ne sommes pas Jéroboam, nous ne sommes pas la tête de tout un peuple. Pourtant, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Au sein de notre famille, sur notre lieu de travail, dans les différents services de l'Église, dans les associations, et même pour certains dans les services administratifs de la ville. Soyons des personnes attachées aux vraies valeurs, dans le respect de l'autre, animés par le souci du bien-être de notre prochain. Que notre vie soit un modèle. Et si Dieu nous donne de la réussite dans ce que nous faisons, soyons reconnaissants à Dieu qui nous a accordé sa faveur. Ne laissons pas la réussite, le pouvoir ou l'argent nous corrompre. Prions aussi pour nos responsables haut placés qui prennent de bonnes décisions avec sagesse, avec justice. Deuxièmement, ce passage me renvoie aussi à Dieu, à ce qu'il est, lui. Pas seulement à l'homme, mais aussi à Dieu. Dans ce passage que nous venons de lire, Jéroboam pense qu'il peut tricher un peu, juste un petit peu. Qui n'a jamais triché dans sa vie? Jéroboam envoie sa femme déguisée chez Aïa, comme si ce prophète n'allait jamais savoir que c'était lui qui l'avait envoyé. Est-ce que nous pouvons tricher dans la vie, tromper les autres? Malheureusement, c'est possible. Je me rappelle un jour au collège, le professeur nous a donné un devoir, composer un poème. J'étais un peu coincé, j'étais pas du tout inspiré. Et pour faciliter la chose, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un copier-coller. Ça, vous connaissez. Mon poème, il était très beau. Pas très long, juste ce qu'il fallait. Ça faisait l'affaire. Mais le professeur savait que ça sentait un peu la triche. Il est venu s'asseoir devant moi, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a posé la question à savoir si c'était moi qui l'avais composé. Je lui ai dit que oui, oui. Pur mensonge. Je ne voulais pas faire marche arrière, j'aurais eu trop honte. Et le pire, c'est que ce poème a été inséré dans le journal de l'école à mon nom. Autant pour vous dire que j'en suis pas fier aujourd'hui. Même si j'arrive à tromper les autres autour de moi, moi je le sais. Et je ne l'oublie pas. C'est une tache noire qui est là dans ma conscience. Ça revient à la surface et ça trouble mon cœur. Mais il y a une question encore plus importante. Pouvons-nous tromper Dieu? Peut-être on peut tromper notre voisin. On ne peut pas tromper nous-mêmes. Et surtout, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher de réponse à cette question parce qu'elle est évidente. Nous ne pouvons absolument rien cacher à Dieu. Le psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais quand je m'assieds ou si je me lève, longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Et puis nous avons ce verset de Hébreux 4 qui nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Et puis le verset 13, « Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Est-ce que Dieu n'a pas le droit de regard dans ma vie? Si c'est lui qui m'a confié ces années sur terre, n'aurais-je pas des comptes à rendre? Ce jour-là, il me sera impossible de cacher la vérité. Tout sera clair, dévoilé. Est-ce que je vais pouvoir justifier mes actes, mes paroles, surtout là où je sais que ce que j'ai fait n'était pas à la gloire de Dieu? Dieu, par sa nature divine, il va trancher les choses de manière tout à fait juste. Il n'y aura pas d'injustice. Mon seul espoir ce jour-là, c'est que il y aura quelqu'un qui va prendre ma cause en main. Il n'y a qu'un seul qui peut assumer ma défense ce jour-là. C'est Jésus, parce qu'il a tout payé pour moi. Quand ils ont placé la couronne sur sa tête et que le sang a coulé, je sais que toutes les blessures infligées par les épines représentent le mal que j'ai fait. Quand les clous ont percé les mains, les pieds, c'était pour moi, pour nous, pour payer l'énorme dette causée par nos péchés. Mon seul espoir, ma seule certitude, c'est que le Christ sera là pour assurer ma défense. Troisième chose de ce passage, je termine. Ce passage me renvoie finalement à moi-même. Pas seulement à l'homme en général, pas seulement à Dieu, mais ce passage me renvoie à moi-même, à mes responsabilités. Il nous amène, nous tous, sans exception, à réfléchir et à agir en conséquence. Les paroles de Jérémie nous disent tout. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Et puis, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Certains vont certainement aller vers Ilzac. Il y a un panneau d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je le regarde. Et c'est marqué « Inspirons-nous du passé pour construire l'avenir ». Je trouve que c'est intéressant, intéressant. Malheureusement, comme Thierry Huser l'a écrit, c'est comme si nous ne cherchions plus dans le passé les repères pour écrire l'avenir. Nous nous croyons plus forts, plus évolués que tous ceux qui nous ont précédés. Ne soyons pas dupes. Dieu nous invite à nous tourner pleinement vers lui, à être à son écoute, à lui confier nos vies. Quel privilège aujourd'hui de pouvoir regarder vers le haut, vers celui qui veut notre bien, notre bonheur. Je suis tellement reconnaissant pour ce moment dans ma jeunesse où le Christ est venu tout bouleverser dans ma vie. Grâce à cette rencontre, j'ai changé de direction. Aujourd'hui, si Dieu n'était pas présent dans ma vie, je ne sais pas où je serais, mais certainement pas ici devant vous. Disons à Dieu merci pour ce cadre qu'il nous a donné, pour toutes les directives, les conseils que nous trouvons dans sa parole, qui nous permettent de ne pas trébucher sur le chemin de la vie. Et voilà, je vais citer Proverbe 4. Mon enfant, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes conseils. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Pour terminer, j'aimerais que nous chantons le numéro 595 dans le GM. Est-ce qu'on peut encore le projeter? Il y a un dernier, je ne l'ai pas mis. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Donc, ce chant dit, j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour ceux qui l'écoutent, pour qui l'écoutent. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Écoutez avec attention, dans le désir d'agir, de se conformer à ce qu'il dit. Et cette phrase, Dieu qui peut me garder, me délivrer de la folie de mes projets. Donc, merci de m'avoir écouté. Je cède la place au groupe musical. Merci.